Je crois qu'il s'agit d'Anne Lorchouin pour le journal. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, retour sur l'un des acquis du confinement. 4 ans après, le télétravail chez les cadres, il est devenu la norme.
Nous reviendrons également sur la victoire attendue de Vladimir Poutine à la présidentielle russe. Le patron du Kremlin a même évoqué son opposant le plus célèbre, Navalny.
Et puis l'Europe vient de signer un partenariat avec l'Égypte au bord du gouffre économique. Mais il y a des contreparties, nous verrons lesquelles. Après ce journal, Marguerite Caton, ce sera votre question du jour.
Et nous parlerons de l'adoption internationale. En a-t-on fini avec les pratiques illicites ?
Des Russes en voiture ou presque, des attestations pour se déplacer et des applaudissements aux fenêtres. Il y a 4 ans, le 17 mars 2020, commençait officiellement le premier et le plus long confinement que la France ait connu, 1 mois et 25 jours. Une période de chômage et ou d'isolement pour certains, de télétravail subi pour d'autres, de réflexion sur le monde d'après pour d'autres encore. Au total, des millions de travailleurs voyaient leurs conditions de travail radicalement changer. Avec quelles conséquences 4 ans plus tard, la principale dans le monde du travail est liée justement au télétravail, valable en particulier pour les professions intellectuelles et les cadres. Cette pratique est devenue un acquis, négocié comme tel parfois dans les entreprises, signe aussi d'un changement du fait de la pandémie dans le rapport au travail. Les précisions de Diane Berger.
Télétravail possible. Cette mention est devenue quasiment obligatoire dans bon nombre d'offres d'emploi dans les professions intellectuelles. 2 cadres sur 3 font au moins 1 jour de télétravail par semaine, quand il n'était qu'un sur 5 juste avant le premier confinement, explique Pierre Lamblin, directeur des études de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres.
Le retour en arrière n'est pas envisagé et envisageable pour eux, pas du tout, puisque ils sont bien plus nombreux, ils sont 8 sur 10 à souhaiter davantage télétravailler au moins 1 jour par semaine. 1 cadre sur 2 quitterait son employeur si celui-ci venait à supprimer le télétravail. Donc on voit que c'est installé et c'est aussi apprécié par les cadres.
D'autant que depuis le début de la pandémie, sur le marché du travail, la dynamique s'est renversée en faveur des salariés qui ont donc moins peur de démissionner pour trouver un meilleur emploi, ajoute Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH.
Pendant la crise Covid, tout le monde a pu constater qu'on arrivait à mettre en place des modèles alternatifs d'organisation du travail, avec plus d'autonomie, plus de confiance, du télétravail en l'occurrence. Et donc ils s'intéressent à poser la question à leur employeur potentiel quand ils sont candidats, ou même à leur employeur quand ils sont déjà salariés, sur c'est quoi les perspectives, c'est quoi l'accès à la formation, parce qu'ils savent qu'ils ont potentiellement plus le choix qu'avant.
Et selon ce spécialiste du recrutement, cette dynamique se ressent également dans des secteurs non concernés par le télétravail. Depuis la pandémie, dans la restauration ou à l'usine, il faut parfois améliorer l'organisation du travail si on veut faire venir de nouveaux employés.
Le monde et le marché du travail, donc durablement touchés par les conséquences de cette pandémie qui a également provoqué une forte inflation après la reprise de l'activité au sortir du confinement. Cette hausse des prix a entraîné une baisse du pouvoir d'achat et par conséquent une demande généralisée de hausse de salaire. Et c'est ce que demandent en particulier les fonctionnaires qui demain vont manifester sur ce thème pour les syndicats de la fonction publique. Malgré la hausse du point d'indice en 2023, le compte n'y est pas. À l'image par exemple du monde soignant. Écoutez le témoignage de cette infirmière, Gwenaëlle Ivinec. Elle travaille dans un centre hospitalier en région parisienne. Elle est aussi secrétaire générale santé pour la CFDT en Seine-Saint-Denis. Malgré une augmentation reçue ces derniers mois, elle sera dans la rue demain. Elle explique pourquoi au micro de Wafia Kenich.
En fin de compte, sur ma fiche de paye, moi, j'ai eu l'augmentation de salaire de 183 euros comme tout le monde. Et puis, en plus de ça, lié au Ségur aussi, comme on a revu toutes les grilles, j'ai récupéré, j'ai récupéré 300 euros, en fait, de plus par mois. Ce qui est vraiment conséquent, sauf qu'en fait, ce qu'on n'a pas vu arriver, c'est l'inflation. On vit quand même mieux parce qu'on ne peut pas cracher dans la soupe. Mais on se retrouve quand même encore en difficulté avec l'inflation. Donc on a beau avoir des salaires d'infirmière, on n'est pas encore arrivé à ce qu'on devrait avoir par rapport à la moyenne de l'OCDE. Alors net, là je suis à 2400 euros. On s'est aperçu aussi que dans la fonction publique, en fait, on est tellement bien payé que les intérimaires préfèrent rester en intérim, les vacataires préfèrent rester vacataires parce qu'ils gagnent mieux que nous quand on est en fixe. Donc ça, c'est là qu'il y a le bas blesse aussi, c'est que on n'arrive pas du coup à fidéliser des gens parce qu'ils se rendent bien compte que les salaires ne suivent pas. Et puis, ils n'ont pas envie de rester attachés parce que, mine de rien, il y a des conditions de travail qui n'ont pas changé. Rien n'a changé à ce niveau-là. les plannings, ça n'a pas changé. Donc en fait, au-delà du fait qu'il faut être augmenté, on a vraiment un problème de conditions de travail qui fait que de toute façon, ils pourront augmenter tout ce qu'ils veulent. Enfin, on va pas dire non plus, mais on a quand même une fuite du personnel.
Le ministère de la fonction publique estime que le pouvoir d'achat des fonctionnaires a progressé chaque année depuis 2015 en se basant sur une statistique que réfutent les syndicats. Ces derniers font valoir les données de l'INSEE qui note un décrochage des rémunérations du public par rapport aux conditions du privé. Des tirs de mortier hier soir visant le commissariat de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Quatre jours avant, un jeune homme de 18 ans originaire de la ville avait trouvé la mort lors d'une course-poursuite avec les policier à Aubervilliers. Son scooter était heurté par un véhicule d'une brigade anti-criminalité appelée En Renfort. Une vidéo du drame a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et dans les médias. L'avocat de la famille accuse les policiers de l'avoir volontairement percuté. L'avocat des policiers défend la thèse de l'accident.
7h06 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Sans surprise, Vladimir Poutine a été réélu hier pour un nouveau mandat de 6 ans au Kremlin.
Avec un score quasi stalinien, 87% des suffrages après dépouillement de 98% des bureaux de vote. C'est son meilleur résultat après un quart de siècle au pouvoir. Et alors que toute opposition avait été écartée. Opposition qui a pourtant tenté de se faire entendre, en particulier depuis l'Ukraine, d'où sont partis des bombardements meurtriers et des incursions de combattants armés depuis les régions frontalières. Dans un discours prononcé depuis son siège de campagne, Vladimir Poutine a affirmé que son pays ne se laisserait pas intimider ni écraser. Un journaliste l'a tout de même interrogé sur la mort récente de son opposant historique, Alexei Navalny. Au dire du Kremlin, ce dernier n'aurait pas eu de chance, il est mort alors qu'il allait être libéré. Écoutez Vladimir Poutine.
Quelques jours avant le décès de M. Navalny, des personnes m'ont dit qu'il y avait une idée d'échanger M. Navalny contre des gens emprisonnés dans des pays occidentaux. Vous pouvez me croire ou ne pas me croire, la personne qui m'a parlé n'avait pas fini sa phrase que j'ai dit que j'étais d'accord, à une seule condition, que nous l'échangions et qu'il ne revienne pas, qu'il reste là-bas. Mais malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est tout.
Des propos recueillis par Sylvain Tronchet. On reviendra sur cette élection russe dans le journal de 8 heures. Le plus grand hôpital de Gaza est en ce moment la cible d'échanges de tirs et de combats, l'hôpital Al-Shifa. L'armée israélienne a annoncé y mener une opération pour y débusquer des terroristes haut gradés du Hamas. Le ministère de la Santé de Gaza indique que des dizaines de milliers de personnes se trouvent dans l'hôpital. Mais si les tirs de l'armée israélienne se concentrent sur l'enclave, le reste de la Cisjordanie n'est pas non plus épargnée. À Jenin, au nord, ils se succèdent, ces raids. La ville est considérée comme un bastion de groupes engagés dans la lutte contre Israël, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967. Et depuis le 7 octobre, le travail du personnel médical à Jenin est rendu de plus en plus compliqué. C'est ce qu'a pu constater notre correspondante Alice Froussard.
Ça, ce sont des impacts de balles. Vous voyez ? Et là, il y a aussi des fragments.
C'est le capot d'une ambulance que ce Palestinien de Jenin, Hazem Massaroui, nous montre. Il la conduit à chaque raid à travers la ville à la recherche des blessés.
Dans mon travail, je ne regarde pas si je transporte un combattant ou un civil. Mon rôle, c'est juste de les sauver. Mais je n'ai pas d'armes, alors pourquoi est-ce qu'il me tire dessus ?
Depuis quelques mois, son travail est incroyablement compliqué, dangereux, explique-t-il. L'hôpital gouvernemental de Jenin, où nous le retrouvons, est d'habitude considéré comme un lieu sûr. Mais ici aussi, les choses ont changé depuis le 7 octobre, explique Kassem Abougoutna, un des médecins responsables des urgences.
L'hôpital, c'est le premier lieu en sortant du camp. Et on voit aussi de nombreuses familles qui viennent s'y réfugier dès qu'il y a l'armée. Mais maintenant, les tirs des soldats visent jusque dans la cour de l'hôpital. Et les ambulances n'arrivent pas non plus à entrer. Tout cela met la vie de nos patients en danger.
Alors le docteur a créé un atelier pour apprendre les gestes de premier secours à des habitants du camp. Il a formé des ingénieurs, des commerçants, même des adolescents.
Même s'ils ne peuvent pas emmener les blessés à l'hôpital, au moins on est content, car ça permet de sauver des vies.
Lors du dernier raid, un jeune a survécu grâce à ses soins, dit-il, alors qu'il était resté 6 heures avec une balle dans le bras, une autre dans l'abdomen, avant de pouvoir rejoindre l'hôpital.
Israël qui maintient préparer une offensive imminente contre Rafah à la frontière avec l'Égypte. L'Égypte qui subit en ce moment la pire crise économique de son histoire. Pour lui venir en aide, l'Union européenne a signé hier un accord de partenariat de 7,4 milliards d'euros d'aide et d'investissement. Au Caire, se sont rendus Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ainsi que les chanceliers autrichiens, le président chypriote ou encore les premiers ministres belges, italiens et grecs, pour une aide pas tout à fait désintéressée, car l'Union européenne a également besoin de son partenaire égyptien stratégique dans la région. À Bruxelles, Lakshmi Lotha.
La situation est critique, rappelle Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne lors de son intervention. Crise de l'énergie, crise migratoire, l'Égypte, qui possède du gaz naturel, est devenue un partenaire indispensable, souligne-t-elle.
En raison de votre poids politique et économique ainsi que votre position stratégique dans une région très instable, notre partenariat ne peut que se renforcer à l'avenir.
L'accord prévoit que l'Égypte stoppe les migrants qui souhaitent se rendre en Europe depuis son territoire. 200 millions d'euros sont prévus dans ce cadre. Plusieurs ONG critiquent le texte en raison du non-respect des droits humains en Égypte, mais la présidente de la Commission a évoqué ses droits.
Ce package repose sur 6 piliers. Le premier concerne notre dialogue politique. Nous nous sommes engagés à travailler ensemble pour la démocratie et les droits humains. Pour y parvenir, nous nous retrouverons lors d'un sommet tous les 2 ans.
Ursula von der Leyen a également rappelé le rôle primordial de l'Égypte pour acheminer l'aide humanitaire à la bande de Gaza voisine. Les Européens veulent soutenir la stabilité du pays en proie à une inflation record et entouré de zones de conflit.
On termine ce journal avec la mémoire d'un grand primatologue. On a appris ce week-end la mort de Frans de Waal à 75 ans. Le Néerlandais qui enseignait aux États-Unis avait fait voler en éclats les représentations des différences entre l'homme et l'animal avec son premier livre, notamment La politique du chimpanzé. Son œuvre a permis de briser beaucoup de préconçus sur ce que signifie être un animal et être un humain. Retour sur son travail avec Héloïse Weiss.
C'est presque par hasard que Frans de Waal découvre les chimpanzés. Il est encore étudiant en zoologie aux Pays-Bas quand, pour se faire un peu d'argent, il pousse les portes d'un laboratoire. La rencontre est évidente. Il le raconte en 2022 dans l'émission La Science CQFD sur France Culture.
Ça m'a frappé. Immédiatement, ils étaient incroyablement intelligents par rapport à tous les autres animaux que je voyais.
Oui,
quand on regardait dans leurs yeux, on voyait quelque chose comme une personnalité et une volonté forte qu'on ne voit pas dans beaucoup d'autres animaux.
Le comportement des chimpanzés, ce sera son sujet d'étude et l'objet d'une première découverte. L'espèce est capable de se réconcilier après une dispute comme l'être humain. Une conclusion qui lui vaudra accusation d'anthropomorphisme, mais qui ne l'empêchera pas de continuer à explorer la vie intérieure des animaux. Dans ses études, il montre que les grands singes et d'autres mammifères éprouvent empathie, colère ou joie. Pas de quoi se surestimer donc en tant qu'être humain pour Frans de Waal, qui considère aussi que les coups de bluff et les manipulations sont peut-être des phénomènes plus anciens que l'humanité.
Chez les chimpanzés, la hiérarchie est fondée sur des qualités politiques. Est-ce que vous avez des amis qui vont vous aider, des partenaires de coalition? Et le résultat, c'est que parfois, un tout petit mâle peut être le mâle alpha. Et chez les bonobos, ce sont les femelles qui dominent les mâles. Elles ont un système qui permet aux bonobos femelles de dominer les mâles.
Opposé d'un côté biologie pour les animaux et culture pour les hommes, ça n'a pas de sens. Les animaux aussi sont des êtres culturels et même genrés, affirmait-il en 2022. Comme pour les êtres humains, selon Frans de Waal, la distinction entre sexe et genre peut s'appliquer aux autres primates.
Un mot du temps de ce lundi au soleil, à l'ouest, sous la pluie, dans l'est. Côté température, elles sont toujours très douces, 8 à 12 degrés du nord au sud ce matin, 14 à 18 sur la moitié nord, 17 à 21 au sud, cet après-midi, 22 à 24 sur le sud-est. C'est la fin de ce journal et la suite des matins de culture avec vous, Guillaume Erner.
Merci Anne-Laure Chouin, avec dans quelques secondes la question du jour de Marguerite Caton. Trafic d'enfants, l'adoption internationale en a-t-elle fini avec les pratiques illicites?